participer.
Bonjour, bienvenue à Chipit et Caramel, le super balado. On est présentement le 25 septembre en compagnie de Denis et Rudy, les profs de philo. Moi, j'aurais quelques questions pour vous. Donc, pour commencer, pourquoi choisir la philo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a captivé et tout? J'aimerais avoir votre point de vue.
Oui, certainement. Pourquoi la philosophie en général? C'est ce que je comprends. La philosophie nous apporte... bon, évidemment, tu as toujours les réponses à savoir... ça rouvre nos horizons, ça nous permet de voir un peu ce qu'on a pu dire sur des questions fondamentales, parce qu'on se rappellera que la philosophie peut se traduire, peut se définir par l'idée de poser des questions fondamentales à des problèmes fondamentaux, n'est-ce pas? Et donc, en ce sens-là, ce que j'aime beaucoup de la philosophie, c'est le fait que, en fait, t'en as un peu pour tout le monde. Bon, pour ceux qui auront déjà fait leur philosophie 1, la philosophie, ça touche beaucoup de domaines. Hein? Ça peut toucher la philo des sciences. Pour ceux qui aiment plus l'épistémologie, ça peut être la philo éthique et politique. Pour ceux qui s'intéressent plus à la politique et à l'agir moral, ça peut être des questions de logique, ça peut être etc., etc. Et donc, je crois que quoi qu'il arrive, on trouve toujours un peu notre compte dans la philosophie. Évidemment, pour certains, peut-être que la philosophie, par exemple, la philosophie de la vieillesse, hein, comment bien vieillir, ça veut dire quoi bien vieillir en société, par exemple. Certains, à l'âge de 19 ans, vont dire « bon, on s'en fout ». Mais d'autres qui vont plus se sentir touchés, tout dépendant de leur domaine d'études, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la philo, c'est certainement l'idée qu'on peut toujours trouver son compte et que ça nous permet de faire travailler un peu l'hamster, hein, sur des questions qu'on prenait pour acquis.
Ben oui, on peut réfléchir, c'est sûr, sur plein de sujets, puis ça nous fait d'un parler, mais découvrir que bien d'autres choses qu'on peut apprendre et tout.
Absolument.
Et toi, Denis?
Bonjour, bonjour. Moi, en fait, si je comprends bien la question, c'est pourquoi, moi, à l'époque, j'ai choisi philosophie. D'abord, bonne question. Faut faire un effort de mémoire. J'approche la cinquantaine, mais je m'en souviens encore. Donc, quand j'étais au cégep, j'avais choisi, moi, les sciences. Et puis, c'était sciences-nature. Puis, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup aussi. Mais rapidement, je me suis aperçu qu'en philo, on ouvrait très large au niveau du questionnement, qu'on pouvait aller un peu où on voulait, qu'on pouvait... Il y avait quelque chose pour moi d'à la fois comme un jam, là, quelque chose de... Une liberté là, que je découvrais là, autant sur le côté très vaste des domaines d'études, et puis ce qui venait peut-être chercher mon intérêt plus scientifique, c'était la rigueur qu'il fallait y déployer. Donc, certains aiment le cube Rubik. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, au fond, c'est un peu ça, cette idée de jouer avec des concepts, d'en définir, peu importe les domaines dans lesquels on travaille. Puis, c'est drôle à dire, mais quelque chose comme un amour de ce jeu-là, un peu intellectuel. Je ne suis pas que ça, mais ça m'amusait beaucoup. Puis ça m'amuse encore beaucoup, puis j'espère aussi que ça l'amuse les jeunes un peu, au-delà du travail, des fois qu'on leur demande, mais qu'il faut avoir du plaisir à faire ça, à mon avis. C'est ça qui me branchait là-dedans. Donc, beaucoup, beaucoup. Mais j'aime beaucoup les sciences humaines, j'aime beaucoup les sciences nature. Je m'en sers aussi aujourd'hui comme enseignant pour, des fois, dans mes exemples ou des trucs comme ça. Mais ce que j'aimerais peut-être des fois, ou j'espère retrouver chez l'étudiant, c'est un petit peu le même petit coup de foudre que j'avais eu à l'époque, même si c'était un peu à côté de mon domaine, mais pour ce champ d'études-là, là, très vaste, qui s'ouvrait, et puis on peut y passer plusieurs vies. Donc, on n'a pas assez d'une, donc ça amuse longtemps.
Ben oui, c'est sûr.
Puis, dans le même état, tu sais, quand on dit souvent, vous devez entendre là, souvent les élèves dire « Ouais, la philo, j'ai pas envie d'y aller, ça me tente pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de... » Tu sais, c'est ça, j'ai envie de choquer. Puis, il y en a qui choquent pour vrai la philo. Mais vous autres, vous réagissez comment à ça, genre, quand il y a un élève qui choque ou souvent ou... Peu importe, là, ou quelqu'un qui écoute pas, ou ça l'intéresse pas, ou qui a pas attrait à ça.
Que répondez-vous à ça?
Ben, j'ai moi-même été étudiant. Je peux arriver à comprendre par moment qu'on a des plus ou moins bonnes journées, là. Donc, tout dépendant, des fois, j'ai envie de dire, c'est vrai en philo, c'est vrai dans n'importe quel cours, mais pour un professeur, quand on... Bon, est-ce qu'on a choqué parce qu'on était un peu brûlé, on était un peu chargé, on était, bon, à la limite, mais si on a choqué parce qu'on commence à perdre le fil des... Là, je trouve ça... Là, j'aurais envie de dire, faut intervenir comme prof. Mais je peux comprendre que par certaines journées, pour avoir été moi-même étudiant, il y a des jours où on est moins réceptif ou disponible à la matière, surtout si des fois difficile. Donc, je peux arriver à comprendre ça. Mais j'espère toujours, par ailleurs, dans mon activité de prof, que de m'assurer que s'il y a un micro-décrochage, que ça n'allait pas plus loin peut-être que le cours. Puis d'essayer de lui faire voir qu'au fond, même s'il y a quelque chose d'ennuyant ou de plate dans ce qu'elle croit que je lui enseigne, de lui faire voir qu'il peut y avoir quand même quelque chose d'intéressant qu'elle peut lier à son programme d'études. Puis des fois, il y a aussi ça comme idée, que comme la majorité des étudiants ont des programmes d'études difficiles, philo est un peu à côté des programmes d'études, il peut se faire par moment que l'étudiant perde de vue l'utilité du cours. C'est un peu notre job d'essayer de lui faire voir qu'au bout du compte, il est gagnant-gagnant d'avoir aussi quelques petits outils philosophiques, même à l'intérieur de son programme d'études.
Ben oui, je pourrais rajouter justement que pour les personnes, ben justement les personnes qui choquent, pour le décrochage, je le vois un peu, pour ma part, je le vois un peu comme, il y a deux avenues possibles de pourquoi est-ce qu'il y a un décrochage, je dirais, continu. C'est-à-dire pas juste, évidemment, de temps en temps, on est humain, hein, l'ennui, ça se vit sur des longues relations, notamment de 45 heures, mais c'est normal. Mais cependant, lorsque c'est continu, ici, à mon sens, deux raisons possibles. Première, c'est que le sujet ne l'intéresse pas. Et là, si le sujet ne l'intéresse pas, si je reviens à mon principe de base que je disais tout à l'heure, la philo, ça touche beaucoup de choses. Ça touche beaucoup de domaines. Donc, je me dis que va arriver un moment où est-ce que je devrais être dans le contenu, il devrait avoir de quoi qui va toucher l'étudiant, l'étudiante. Cependant, le deuxième possibilité de pourquoi est-ce que ça marche pas, c'est que mon mode d'enseignement ne correspond pas au mode d'apprentissage de l'étudiant, l'étudiante. Ça, c'est définitif. Cela se peut. Là, ici, ça demande un travail sur moi, évidemment, dans le sens où est-ce que là, c'est à moi à être capable de le rendre... de faire une petite introspection, hein, de rendre mon enseignement intéressant pour l'élève.
Ouais, mais c'est le fun justement que ça touche genre plusieurs sujets, puis que ça fait que à un moment l'étudiant va arriver à un sujet qu'il aime parler, puis ça peut explorer vers d'autres endroits et tout, d'autres sujets.
Puis, est-ce que vous trouvez que ça, mettons, ça peut ouvrir, genre, quelle porte ça peut ouvrir, mettons, quelqu'un qui est comme en philo puis qui s'intéresse vraiment à ça, puis qui, mettons, qui va plus loin, ben est-ce que ça ouvre plusieurs portes ou il y a juste, mettons, un ou deux choix, puis c'est tout? C'est où qu'on peut aller avec ça, là?
Bien, question hyper intéressante, parce qu'effectivement, là, même moi, quand j'avais vos âges, À vrai dire, peut-être par chance, je me suis pas posé la question. Donc, j'y suis allé un peu la tête baissée, comme dans beaucoup de mes projets. Donc, mais ceci étant dit, la question est bonne tout de même. Là, j'aurais envie de dire, ça dépend du profil d'étudiant. Si l'étudiant a l'intention de faire des sciences, c'est-à-dire de pousser son parcours académique jusqu'à l'université, et puis qui est un peu curieux, ça peut être une fichue belle introduction pour n'importe quelle discipline des sciences humaines ou même sciences nature. Ça peut aussi devenir une belle préparation pour le droit. Ça peut aussi être une ouverture au journalisme. Ça peut aussi nous amener rapidement dans le communautaire, pas nécessairement sur le plancher des vaches, mais peut-être au niveau organisationnel. Donc, c'est aussi des outils qu'un philosophe a, donc capable d'analyse. Donc, il peut, de ce point de vue-là, ça peut ouvrir. Bien sûr, professeur, c'est peut-être la voie naturelle. Mais au-delà de ça, j'ai connu des philosophes qui sont allés dans le communautaire, qui sont allés dans des organisations sans but lucratif, qui peuvent aller aussi dans le journalisme ou la politique pour les plus courageux d'entre eux, peut-être, ou ceux qui en mangent. Mais ce qui est certain, si la personne a l'intention de compte pas les années universitaires qu'elle estime faire, la philo peut préparer vachement bien à n'importe quelle discipline là, de sciences humaines ou de sciences nature. ou d'histoire même.
Ben oui, bien sûr, la pensée, c'est dans n'importe quelle discipline, réfléchir et...
Puis en fait, dans le même ordre d'idée, on voulait vous demander aussi, c'est quoi votre vision de l'enseignement en général? Parce que, tu sais, on sait que, tu sais, chaque prof a sa vision, chaque prof a ses stratégies, a ses façons de faire. Puis on voulait savoir, vous, c'est quoi votre vision de tout ça?
Bien sûr que ben, l'enseignement, c'est avant tout, ça va s'en être un peu bizarre, mais c'est avant tout un travail. Hein? Et un travail, lorsqu'on est un travailleur ou lorsqu'on travaille, on a quand même des mandats, hein? On a des choses à respecter. Ici au Québec, on a une vision de l'enseignement qui se rapproche de l'approche par compétence, hein? Qui se fait par l'approche par compétence. Donc évidemment, la première réponse qui semble la plus évidente, c'est de dire que moi, en tant que professeur, mon but, c'est de vous transmettre des compétences. Hein? Que ce soit des compétences de lecture, que ce soit des compétences d'écriture, de production de dissertation, de compréhension. Évidemment, dans les compétences, vous avez des compétences liées au savoir, hein? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de connaître Platon, Aristote, Descartes, etc., etc. Ici, moi, personnellement, mon travail en tant qu'enseignant, autre que vous enseigner des compétences, c'est aussi, à mon sens, d'être capable de former des citoyens. Ici, je renvoie au rapport parent. Qu'est-ce à dire que ceci, le rapport parent? Le rapport parent, c'est littéralement le document qui crée l'idée de cégep en 1967-1968 et qui va donner un peu les valeurs que devrait posséder un cégep et donc, de ce fait même, les employés qui y habitent. Et dans ces valeurs, on y retrouve justement l'idée de la formation du citoyen. Et tout à l'heure, je trouvais ça intéressant d'ailleurs la question à savoir quels emplois ça nous offre. Quels emplois nous offre donc la philosophie? Parce que évidemment que c'est important, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, on associe beaucoup l'éducation à la formation du travailleur, mais ce n'est pas que ça. Et je crois que le réel c'est l'un des atouts de la philosophie qui, effectivement, ça touche plein de domaines, donc. Mais je crois surtout que le gros avantage, c'est qu'on forme des citoyens. On forme des citoyens notamment en formant la pensée rationnelle, cours de philo 1, en faisant re-questionner les élèves par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être un être humain. Hein? Et qu'on le veuille ou non, notre vision de l'être humain va avoir une influence sur d'autres pans de notre vie, là, dans le sens où est-ce que tout dépendant, si vous considérez que l'être humain est fondamentalement bon ou mauvais, par exemple, ça se peut que vous n'ayez pas la même vision de ce qu'est être un itinérant, par exemple, ou être quelqu'un de plus pauvre. Tout dépendant de c'est quoi votre conception de la liberté, il se peut que vous n'ayez pas la même conception du « l'as-tu mérité son poste » ou est-ce que finalement c'est juste un coup de chance. Ce genre de questions-là. Et je pense que c'est important pour la formation de citoyens. Puis là, évidemment, bon, éthique et politique, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus concret, là. C'est-à-dire l'idée du, est-ce que mon agir est bien, est-ce qu'il est mal, etc. Puis être capable de réfléchir sérieusement à ce genre de questions-là. Hein? Moi, mon travail premier, c'est d'être capable d'amener les étudiants et les étudiantes là. Qu'ils soient capables de se re-questionner, qu'ils soient capables, justement, d'être des citoyens accomplis dans une société qui, bon, peut-être qu'accomplis serait fort, mais du moins qui est toujours en construction. Hein? Je pense que c'est tout.
Puis Denis, t'as-tu un avis là-dessus aussi à ajouter?
Ben, comme le collègue Rodi l'a souligné, là, je seconde l'ensemble de l'œuvre. Donc, bien sûr, l'approche par compétence, rendre l'étudiant plus compétent, c'est la réponse peut-être la plus officielle, peut-être la plus courte aussi. Puis, espérer développer peut-être chez l'étudiant une curiosité intellectuelle aussi. Donc, au-delà, bien sûr, d'un éveil à la citoyenneté qui est important, puis d'un esprit critique qui est fondamental, développer ce goût personnel, tu sais, ça peut être le fun aussi. Donc, pour la curiosité intellectuelle, donc ça, j'y vois quelque chose de pas pire. Puis accompagner aussi de jeunes adultes dans une démarche fort noble que de devenir aussi de meilleures personnes et de meilleurs citoyens. Donc ça aussi, c'est gratifiant pour un enseignant. Donc.
En fait, oui, tu me fais penser aussi, là, c'est pas tant la vision de l'enseignement en général, mais de l'enseignement en philo. Hein, la philosophie a un caractère, somme toute, assez particulier, mais que je crois que l'ensemble de la formation générale peut avoir, là, qui est, c'est-à-dire à quoi ça sert tout cela. Et je crois que notre travail en tant qu'enseignant en philosophie, enseignant-enseignante en philosophie, c'est d'être capable de rendre ce qu'on appelle le savoir signifiant. C'est un concept en pédagogie qu'on retrouve là, c'est-à-dire lorsque l'étudiant étudiante se retrouve devant toi et que tu enseignes la philosophie, il faut qu'il soit capable de se dire, ben, en fait, il faut qu'il soit capable de trouver une réponse à la fameuse question « Pourquoi j'apprends ça? » Puis évidemment que si vous êtes devant, mettons moi, là, mettons que vous avez un Rudy Sauvage hein, qui vous enseigne la philosophie et que vous vous posez la question pendant 3 heures à savoir, mais ok, mais pourquoi je suis là, moi, là, pourquoi j'apprends ça? Ça va peut-être être difficile hein, déjà d'être capable de retenir ce que je dis, mais d'être capable aussi de comprendre l'utilité de la chose. Mais si, via des techniques qui peuvent être assez diverses et assez variées, je suis capable de faire comprendre l'importance du truc. Que je suis capable par vous-même, parce que c'est évidemment je peux pas juste vous insérer l'idée dans la tête puis tout va bien là. Il faut que ça soit aussi un processus interne à mon sens là. Si je suis capable de rendre le savoir signifiant, bref, de donner une signification au savoir pour les étudiants et les étudiantes, je pense que j'aurais déjà fait une certaine avancée là, déjà.
Ok, donc si je comprends bien, si l'étudiant est capable de répondre à la question « À quoi ça sert la philosophie? » et qu'il y a une réponse signifiante, ça serait un bon début
Ça serait effectivement un bon début. Ça serait effectivement un bon début, déjà.
OK. Puis j'aurais une autre question un peu plus personnelle. C'est quelque chose que je me demande. Donc, avez-vous des artistes préférés
Oui, quel type d'artiste? Artiste musicaux, artiste...
Va où tu veux.
Va où je veux, OK. Mais sûr que, bon, moi, personnellement, je suis très, très proche de la musique, plus que de l'art pictural, mettons, là, peinture, etc. Là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la musique. D'ailleurs, j'en fais. Et je joue du piano, je joue de la guitare, etc. Et je crois avoir une bonne appréciation de la musique. Et donc, en ce sens-là, c'est surtout des artistes musicaux lorsqu'on me demande quels sont tes artistes préférés qui te viennent en tête. Vous savez, j'ai pour mon dire qu'un être humain, ça change, puis ça change beaucoup. Donc, évidemment que... Et moi, je change beaucoup, en fait. Donc, souvent, mes artistes préférés, ça va être de semaine en semaine. Je pense que de manière assez... Maintenant, ça fait assez longtemps, puis de manière assez stable, je peux dire les Cowboys Fringants. Les Cowboys Fringants, pour moi, c'est un groupe admirable que je suis depuis que j'ai 16-17 ans. À chaque année, j'allais les voir en show, là. Mais sinon, dans les artistes qui, eux, ça va dépendre. Beaucoup d'artistes québécois. En fait, depuis cet été, j'écoute beaucoup plus d'artistes québécois. J'apprécie beaucoup Jean Leloup. Émile Blodeau aussi, j'apprécie énormément. Et sinon, dans mes belles découvertes de cet été, Lou Adrienne Cassidy, qui est une artiste, à mon sens, incroyable, qui a une belle voix, qui a une belle musicalité, même dirais-je. Bref, beaucoup de Québécois, on comprendra, mais tout de même.
Ah, oh, mais je suis intriguée. C'est quoi la dernière artiste que tu as dit? C'est
Lou Adrienne Cassidy. Lou-Adrienne Cassidy.
Ah, oh, c'est le fun. Avec quel genre de musique?
Ici, je dirais que c'est un... Ah, oh, bonne question. Quel type de musique fait-elle? Non, mais j'en écoute, mais pourtant, je me suis jamais posé la question, c'est quel type de musique? Peut-être du folk, peut-être du folk. C'est, en tout cas, c'est pas du... Je dirais pas du rock, certainement pas. C'est pas du metal, ça, non plus. C'est pas du rap, c'est pas du pop. Je dirais une espèce de folk pop. Ouais, peut-être. Une espèce de folk pop, vraiment cool.
Puis toi, Rudy, tu irais où pour cette question-là? Denis, excuse.
Oui. Ben en fait, moi, l'art, j'aime, mais j'ai très mauvaise mémoire là, pour... je ne sais pas pourquoi. J'ai un rapport très relâché à l'art, très spontané, pas très académique. Peut-être c'est l'aspect... le deux côtés de la médaille, là, la philo exige beaucoup en d'autres trucs, en analyse, en... Bon. Dans l'art, j'aime beaucoup, mais je ne saurais souvent même pas exactement dire qui l'a chanté, qui l'a fait. C'est sûr que j'aime la musique, mais encore là, souvent du vieux. Donc, je commence à être vieux un peu moi-même. Donc, c'est clair que du Charlebois, ces époques-là, là, c'est... j'aime beaucoup Harmonium, j'aime beaucoup Offenbach. Vous voyez, je suis resté pris un peu dans mes... La musique, c'est un peu lieu souvenir, hein? Je suis resté pris dans mes vieilles affaires. Donc, puis pour ce qui est de la musique nouvelle, bien souvent, je dis à Rodi, veux-tu bien me dire qui chante ça, là? Puis je l'oublie 3 minutes après. Donc, c'est un peu mon rapport à l'art nouveau. Donc, puis je le réécoute le surlendemain, puis je dis, hey, Rodi, c'est de la nouvelle musique, peux-tu bien me dire qui chante ça, là? La même qu'avant hier, Denis. Ah oui, c'est vrai. Donc, donc, c'est un peu ça. Donc, j'aime beaucoup, j'aime m'y retrouver. Quant au parc, ici à Malbaie, ils font des trucs, j'y suis presque toujours. Les musées, j'aime ça. Mais bon, je retiens des petits bouts, je m'amuse, je danse, des choses comme ça. C'est comme ça que je vis l'art, un peu comme la cuisine. Je lance pas de nourriture, mais vous voyez pas loin dans ce sens-là.
Puis hier, tu sais, je vous entendais, genre, voyage, vous semblez avoir un petit lien particulier avec cette chanson-là.
Encore l'époque, Mylène Farmer, voyage. Bien sûr.
Sérieusement, cette chanson-là, elle pogne tellement en tête, là, pour vrai. Oui. Mais elle est tellement bonne, là. Oui. Hey, c'est ça le
peu. Un verre d'oreille, un vrai.
Ben oui.
Puis au fait, petite parenthèse comme ça, culturelle, c'était la préférée de Paul Hood, imaginez. Mais il n'était pas jeune non plus. Donc, Mylène Farmer. Donc, pour lui, c'était comme un rayon de soleil. Puis une autre petite parenthèse, c'est une Québécoise, pour ceux qui étaient certains qu'elle était française, là. C'est une Québécoise de Pointe-Claire, Montréal.
Oh, wow! Oui. Ah oui,
j'oublie son vrai nom, ceci étant dit. C'est pas Mylène Farmer, mais j'oublie le vrai nom. Je défie un auditeur de le trouver.
Je pense que c'est Mylène Farmer.
Bon, devine le nom de la chanteuse.
C'est une petite fille de chez nous.
Bon, puis sinon, au Havre, là, avec Fouki, c'était comment?
J'ai adoré ça. Fouki a amené un peu. Moi, je suis un type du Sud. J'arrive de Montréal. J'ai grandi là. Donc, c'est sûr que j'adore la Malbaie, ceci étant dit, pour d'autres raisons que Montréal. La nature y est superbe, tout ça. Mais avec Fouki, c'était un petit peu comme Annecyc et Rivière-des-Prairies qui s'amenaient sur le fleuve. Donc, ça m'a fait sourire. Montréal à la Malbaie.
Fait que là, si je comprends, Fouki est venu ici?
Oui, tout à fait. Il est venu, là, Alicia, je crois que c'était un vendredi, là, mais j'oublie la date.
Oui, mais c'était au Havre. Ça fait, je pense, 1-2 semaines.
Maximum 2 semaines. Ouais. Maximum 2 semaines.
Puis j'ai manqué ça.
Ben oui.
Ben oui, t'as manqué ça, Miley.
Fait que là... Là, on a parlé de l'enseignement, on a parlé des cours, on a parlé du chocage. On pourrait parler des téléphones un peu, peut-être, le téléphone en classe, votre vision de ça, genre... Puisque là, je sais que ça a été interdit dans les classes, ça a été interdit au primaire, au secondaire. Mais là, tu sais, vous autres, dans vos classes, j'imagine que vu que c'est un cours général, c'est peut-être moins intéressant pour les élèves, fait que peut-être qu'ils sont plus portés à aller vers leur téléphone. Fait que vous autres, vous voyez ça comment, les téléphones dans vos classes?
OK, le téléphone, dans le milieu de l'éducation, je crois qu'il faut le prendre en deux temps. Dans le sens où le téléphone, en fait, c'est bon, ça fait quoi un téléphone de base? Bon, évidemment, ça apporte des petits jeux, hein, aujourd'hui, mais le téléphone a quand même pour but premier que la communication. Et bon, l'être humain étant ce qu'il est, le besoin de communication, des fois, il est fort. Puis c'est normal. En ce sens-là, je crois que le téléphone, pour justement l'idée de la communication ou le type de communication que ça peut apporter, ça peut être somme toute assez bénéfique. Certains diront que non, ça reste mieux en vrai. Je ne crois pas que c'est nécessairement meilleur ou mauvais. Je crois que c'est juste un autre type de communication, au même titre qu'à une certaine époque, on pouvait... Bon, il y avait les fax, il y a eu la radio après, etc., etc. Il y a eu le téléphone, pas de texto, puis maintenant, on est rendu avec les textos. Les snaps, Instagram, etc. Cette partie-là, c'est pas plus stressant. Cependant, où ça devient un peu plus stressant, c'est qu'il y a des études qui semblent démontrer qu'il y a un réel problème de rétention de l'information dans les classes. Rétention, c'est-à-dire le fait de garder en mémoire l'information à cause du téléphone. Si le téléphone est un merveilleux outil communicationnel, il semble bien que c'est pas du tout un bon outil pédagogique. Et c'est pourquoi que, ben là, justement, Maëlie, t'as fait référence à la fameuse loi que le gouvernement caquiste a fait passer, là, donc dont le ministre de l'Éducation, M. Drainville, à l'époque, a fait passer sur l'interdiction des cellulaires. Je crois que l'interdiction des cellulaires en classe n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que justement, le but de la classe est d'offrir un lieu propice à la pédagogie, un lieu propice à l'acquisition des compétences. Cependant, je crois que l'annulation dans toutes les sphères sociales qui comprend l'école, je ne crois pas que c'est une si bonne idée que ça. Après, évidemment, est-ce que cela veut dire que on doit rien faire si jamais justement l'étudiant ou l'étudiante apporte son cellulaire en classe? Non, je pense justement qu'il faut être capable d'intervenir. Est-ce que ça va demander un peu plus de travail du point de vue, par exemple, des surveillants secondaires, etc.? Oui, peut-être. Mais quand même, je pense pas que c'est une mauvaise chose en soi dans le milieu social.
Mais je me dis que quand il y avait les pochettes au secondaire, c'était quand même une bonne façon parce que l'élève arrivait en classe, il déposait son téléphone dans la pochette, puis là, ça l'obligeait l'élève à aller s'asseoir puis se dire « Ah, j'aurai pas mon téléphone durant le cours, je pourrais le prendre après le cours, tout ça. » Mais encore là, il y avait des personnes qui déjouaient le système, tu sais, comme toujours et toujours dans la sphère de l'école.
Mais évidemment, évidemment qu'il y a des... Il va toujours avoir des mailles dans le filet. Là. Ça, on ne peut pas y échapper. Ici, je vais citer René Lévesque. Là. C'est con, hein, mais c'est pas parce qu'il y a une pomme. C'est pas parce qu'il y a une pomme pourrite dans le corseau de pomme qu'il faut jeter tout le corseau de pomme. je crois que justement, c'est beaucoup plus par justement des mesures de prévention, comme tu disais, c'est-à-dire l'idée des pochettes, par exemple. Bon, il parle aussi l'idée des sanctions et qui peuvent. C'est-à-dire qu'on te. On t'enlève le cellulaire si jamais tu l'utilises en classe. Ce genre d'affaires-là, je pense pas que c'était mauvais en soi. Je serais plus d'avis, justement, oui, effectivement, ce genre de mesures-là, plutôt que de dire à tout va, on enlève le cellulaire partout. Là. Ça me semble plus raisonnable.
Parce qu'il y en a, par exemple, je prends un exemple pour un enfant qui a la difficulté à souvenir de ses rendez-vous. Puis son téléphone, il met son alarme sur son téléphone. C'est comme un rappel, puis tout ça. Puis si on lui enlève le téléphone, là, c'est clair qu'il va peut-être pas se rendre compte qu'il y a un rendez-vous à telle heure, tout ça. Il va l'oublier, tout ça, s'il y a personne qui y rappelle.
Oui, bien sûr que un téléphone cellulaire, ça a de multiples fonctions. Il y a un argument qui pourrait être fait pour dire qu'on avait des rendez-vous avant les cellulaires, puis on était capable, on se trouvait des moyens pour s'en souvenir avant. Mais oui, je peux comprendre que s'étant habitué à un certain type de processus pour être capable, par exemple, de se souvenir de nos rendez-vous, l'agenda électronique, etc., ça soit plus difficile de trouver d'autres habitudes pour être capable de justement d'avoir ce genre de mémo-là, etc. Perso, c'est vraiment plus l'enjeu communicationnel en soi que je trouve qui peut justement, en fait, on a besoin de communication et c'est pas vrai que quelqu'un va avoir plus de communication parce qu'on l'arrive sur cellulaire, même si, puis c'est pas vrai que les communications en personne c'est toujours nécessairement meilleur que par cellulaire. Du moins, je ne suis pas de cet avis-là. Toi, Denis?
J'ai toujours, moi, de la difficulté à me positionner là, là-dessus parce que, d'abord, je le disais tout à l'heure, j'approche la cinquantaine. Donc, quand j'ai fait le primaire, le secondaire, bien sûr, ces trucs-là n'existaient pas. Donc, j'ai même encore aujourd'hui, peut-être que je suis un peu déconnecté, de la difficulté à comprendre tous les... C'est quoi le besoin de l'avoir continuellement? On m'a jamais donné de réponse tout à fait claire à ça. Je comprends qu'il y a un besoin de communication, mais j'ai le sentiment qu'il y a plus que ça. Et puis là, ma réflexion sera un peu la suivante, de savoir est-ce que ces besoins-là peuvent s'arrimer avec la concentration quasiment nécessaire qu'on demande dans une classe. Donc là, il faut continuer de chercher là-dessus. Il faut continuer de comprendre pourquoi les jeunes, ils sont attachés. Je comprenais tout à l'heure là, les enjeux d'horaire, d'organisation, mais je soupçonne qu'il y a plus que ça. Donc quelque chose, et même chez les adultes. Donc quelque chose comme une doudou ou je ne sais trop dans ce style. Donc et puis tant qu'on mettra pas, à mon avis, la main là-dessus, on comprendra pas tout à fait d'abord pourquoi ils veulent absolument l'avoir, ceux qui prétendent devoir l'avoir continuellement. Remarquez que moi, je viens au travail tous les jours sans. Donc, je voyais que j'ai du mal à comprendre le besoin puisque je ne l'éprouve pas, manifestement. Donc, mais quand j'aurai compris ce truc et qu'on me dira qu'effectivement, ce n'est pas incompatible avec la concentration qui est exigée en classe, pas pour faire chier, mais pour l'apprentissage des contenus puis des compétences, ben, je me laisserai inspirer par ces études-là pour comprendre un peu mieux. Donc, bon, c'est un peu ça.
Ben, je pense qu'il y en a qui le voient comme... Tu sais, ils voient que toute leur vie est dedans, dans le sens où toutes leurs amis est là. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a qui se disent, je vais garder mon sel parce que, bon, il y en a qui se créent des urgences des fois. Ils disent, ben, tu sais, s'il y a une urgence familiale, je fais quoi ou soit. Il y en a que c'est vraiment... Genre, il y en a qui ont réellement des urgences, il y en a qui n'en ont pas. Puis, tu sais, ça dépend de la situation de chacun. Puis, mais je pense qu'il y en a qui voient vraiment que toute leur vie est ancrée là-dedans, leurs amis, leur famille, tu sais, la famille éloignée, des fois, qui reste loin, ben, tu sais, justement, on avait l'enjeu communicationnel tantôt, ben, tu sais, pour le monde qui reste loin, leurs amis qui voient jamais ou, tu sais, qui sont dans d'autres villes, dans d'autres pays, des fois même, ben, tu sais, ça leur permet de rester en contact. Puis, tu sais, il y en a que, tu sais, comme on disait aussi tantôt pour organisationnel, ben, tu sais, c'est une autre partie de leur vie qui est aussi dans le même outil, qui est dans le même petit carré. Fait que, oui, tu sais, il y en a que c'est vraiment comme toute leur vie là-dedans, leurs photos, leurs souvenirs, leurs... Tu sais, c'est vraiment plusieurs choses qui est rassemblées au même endroit. Puis c'est comme, on est l'être humain qui a plus tendance à tirer vers la facilité. Fait que quand il y a tout dans le même endroit, à la même place, puis qui est tellement facile à traîner... Je pense que c'est pour ça qu'on le traîne un peu partout par réflexe, parce que tu sais, on se dit, ah ben si j'ai besoin, mettons, de prendre une photo, je vais la prendre. Si j'ai besoin d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu, je pense à lui, ben je vais pouvoir, si je veux prendre mes courriels, il y en a qui sont capables de le faire sur leur téléphone. Tu sais, c'est tout le temps, je pense que c'est plus facile à traîner qu'un ordi, puis souvent c'est pour ça que le monde le traîne.
Ceci étant dit, ce qui va être intéressant de vérifier aussi, puis tu n'as sûrement pas tort non plus, là, Maëlie, dans ce que tu disais, mais là, on va le vivre, une cohorte d'étudiants qui va être privée au primaire et secondaire. Donc, on va être en mesure de voir, nous autres, professeurs de cégep, parce qu'on vous reçoit après.
Ouais. Le réel impact.
Si on va constater un truc...
Un réel puis, changement, ouais, ou pas.
Puis ce serait intéressant là, de voir ce qu'on... D'abord si on va voir un changement, puis quel genre de changement, puis est-ce que ça semble positif, négatif? J'aime à croire qu'au cégep, on a affaire à des gens qui ont au minimum 17 ans. Donc, j'aime à croire que la personne elle a une certaine maturité, puis va savoir, en quelque sorte, comprendre quel usage elle doit en faire, mm-hmm, autour de la classe. Mais là, on va avoir une cohorte qui ne l'aura pas eue. Donc, ça va être intéressant de voir quel comportement ils vont avoir.
Puis, tu sais, j'ai vu un article, je sais pas, je pense que c'est la semaine passée ou au début de la semaine, qui disait que tu sais, ici, dans le fond, ça disait qu'à Baie-Saint-Paul, en tout cas, il y avait moins de cyber-intimidation, donc d'intimidation par le téléphone, mais tu sais, ils n'ont plus le droit, fait que c'est ça. Mais que, je sais pas... Tu sais, peut-être que l'intimidation, tu sais, verbale revient. Tu sais, il y a tout le temps un double couteau. Puis, tu sais, là, le monde n'a plus leur téléphone pour aller dessus. Fait que souvent, à place de niaiser par leur téléphone, ils niaisent en vrai. Puis, en même temps, à Baie-Saint-Paul, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, ben, tu sais, là, à place d'être sur leur téléphone, ben, tu sais, ils jouent Uno ou ils jouent à des jeux de société pendant leur pause, puis au dîner, puis tout. Fait que côté social, puis tout, c'est super, mais tu sais, je sais qu'il y a des jeunes qui ont de la misère socialement, puis que c'était comme leur exutoire, leur manière de s'exprimer sans nécessairement, ben, pas faire face, mais tu sais, sans nécessairement avoir peur de la société ou quoi. Fait que je sais pas, tu sais, il y a des bons côtés, ben, c'est comme dans tout, là, mais tu sais, il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés à cette interdiction formelle-là. Mais c'est ça, on serait-tu mieux par une... Pas une interdiction, tu sais, comme tu disais tantôt, Rudy, là, tu sais, est-ce qu'on serait mieux à une régulation plutôt qu'une interdiction? Tu sais, il y a comme deux couteaux, il y a comme deux tranchants à ça, là.
Mais en fait, j'en profiterais pour, justement, par rapport, par exemple, à l'idée du couteau à double tranchant, là, pour la cyber-intimidation versus l'intimidation en live. C'est sûr que c'est un peu trop récent, je crois, à moins que des études soient sorties et que je n'ai pas vu, là, mais je pense que c'est un peu trop récent pour être capable de statuer de suite. Peut-être que ça va arriver.
Ben, en tout cas, j'ai lu qu'il y avait moins de cyber-intimidation.
Ouais, on peut s'y attendre, effectivement, parce que tu as plus ton cellulaire. Fait que oui, ça.
C'est ça.
Ça, oui, mais.
Tu disais que c'était significatif puis que c'était vraiment comme un enjeu important, mais je suis comme, est-ce que. Il y a un double tranchant derrière, dans le sens où est-ce que l'intimidation va un peu plus revenir ou pas. Ça, je le sais pas.
C'est là.
Mais c'est sûr qu'il y a un couteau à double tranchant, dans le sens que si l'intimidation se fait plus par médias sociaux ou par des plateformes, je veux dire, ça va se faire en vrai. Là. Il y a des enfants qui, il va leur arriver quelque chose, ils vont se faire plaquer contre un casier, ils vont trouver une autre façon de déjouer ça. Il y a toujours des moutons noirs dans un troupeau. Là.
Comme j'ai dit, c'est sûr que avant la cyber-intimidation, l'un des gros problèmes qu'on avait à l'école, c'était l'intimidation. Donc, on comprendra qu'on a juste changé de médium ici. Peut-être que, mais encore une fois, j'invite quand même à la prudence parce que c'est trop récent pour qu'on soit capable encore d'avoir les statistiques sur ce genre d'affaires-là, là. Évidemment. Par contre, j'aimerais ça justement, parce qu'on parle justement l'idée d'interdiction, régulation, puis je crois que ça va être de plus en plus difficile d'être capable d'établir des bonnes régulations ou même juste d'interdire, parce qu'on parlait tout à l'heure de la dépendance évidemment au cellulaire, mais pas que, à la technologie en général. Et sérieusement, ça va être de plus en plus difficile, je crois, parce qu'on a un social, une société qui nous demande, peut-être pas d'être dépendant, mais qui nous demande d'être à l'aise au moins avec la technologie et de l'utiliser de manière assez, de manière ponctuelle au moins, là. Ce que je veux dire par là, c'est que, de plus en plus, les emplois qui vous demandent d'être accessibles en tout temps, 24 heures sur 24, même quand que vous ne travaillez pas, hein, parce qu'on ne sait-on jamais, peut-être que vous travaillez dans un couche-tard, puis que, il ne s'est pas pointé, donc il faut que tu sois disponible à l'appel. De plus en plus d'emplois qui demandent que vous sachiez utiliser l'ordinateur, qui va vous demander d'être habile avec Word, Excel, PowerPoint, etc., etc. Qu'on le veuille ou non, le milieu est personnel et professionnel devient de plus en plus envahi, entre guillemets, là, c'est pas dans un sens nécessairement péjoratif mal, mais devient de plus en plus envahi par la technologie, hein, et c'est normal que ça devienne de plus en plus important parce que plus ça va avancer, plus tu vas avoir des gens où la seule vie qu'ils auront connue, c'est une vie avec l'ordinateur, c'est une vie avec le cellulaire, là, c'est point barre.
Puis tu sais, le COVID aussi a comme propulsé ça dans le sens où, je dirais pas grâce au COVID, mais tu sais, à cause du COVID, tu sais, on a eu, les cours en ligne sont nés là, puis là, quand ils ont vu que les cours en ligne, ça marchait, ou du moins ça marchait pour un petit bout. Tu sais, le milieu professionnel s'est dit, pour certains emplois qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une présence, c'est une très bonne alternative. Puis encore là, ça revient à ce que tu disais, dans le sens où ça nous oblige encore plus à être à l'aise avec la technologie puis avec le système Zoom, Teams ou peu importe. Tu sais, ça monte encore d'un cran la technologie qu'on doit utiliser dans notre milieu de travail, si on travaille de la maison en visioconférence ou avec l'ordi, là.
Définitivement, c'est sûr et certain. Surtout si le télétravail devient de plus en plus populaire. D'ailleurs, justement, tu parlais de la COVID, là. Ça a été une réalisation pour le milieu scolaire qu'on était foutrement pas prêt à ce genre d'événement-là. Là, justement, tu sais, les enseignements à distance, c'était sans dire que c'était tout nouveau parce qu'il y avait déjà eu quelques cas avant, là, de cours en ligne, etc. Reste tout de même que beaucoup d'enseignants-enseignantes n'étaient pas prêts à ce genre de défi-là, et on a vu assez rapidement que justement dans un cas où il y aurait à donner enseignement à distance, il faudrait peut-être être capable de s'établir notamment des balises, hein, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, mais aussi des stratégies pour être capable de bien enseigner, parce que des problèmes, il y en a eu, là, mais beaucoup, justement, des problèmes de rétention des élèves, mettons, là, être capable de garder les élèves actifs et attentifs pendant ce genre de cours-là, hein, c'est plus difficile quand tu quand tu apprends la philo dans ton lit que dans une salle de classe?
Bien, c'est sûr, c'est de l'adaptation, essayer des nouvelles stratégies, motiver les élèves, même s'ils sont à distance, puis c'est ça, c'est sûr.
Puis tu sais, quand tu fais de l'école, tu sais, d'habitude, à l'école, t'as tout le temps, tu sais, t'as juste tes cahiers, tes crayons, t'es dans une salle de classe, t'es avec d'autres élèves, tu sais, c'est vraiment comme, l'environnement est là pour apprendre et non pour... Ben, t'sais, il y en a qui sont distraits à rien, t'sais, je peux le comprendre, les TDAH, ou même peu importe, si t'es un peu plus une journée distant, ben, ça se peut que t'aies des distractions. Mais t'sais, quand t'es dans ta chambre, t'sais, il y en a qui jouent au PlayStation, là, pis t'sais, c'est pas un jugement dans le sens où mon ami me le disait ouvertement qu'il jouait. T'sais, pis c'est ça aussi, c'est que dans ta chambre, t'as tes jouets, t'as ton environnement, t'as tes parents des fois qui sont dans... Pis t'sais, on est en COVID, fait qu'évidemment que les parents, ceux qui avaient des frères ou des sœurs, ben t'sais, ils étaient là aussi. T'sais, ils partageaient tout l'environnement, pis essaye d'être concentré quand t'as ton frère ou ta sœur ou ta mère qui est l'autre bord de la porte, pis qui peut potentiellement venir te déranger pour te poser une question ou peu importe. Fait que t'sais, c'était vraiment une adaptation, t'sais, on était dans les débuts de ça. Puis nous autres, tu sais, moi, j'étais pile dedans. Puis j'étais en secondaire 2 quand c'est arrivé, quand il y a eu la fermeture en avril. Là. Mm. Fait que, tu sais, secondaire 3, je l'ai vécu en alternance. Mm. Puis, tu sais, c'était... nous, on était les seuls secondaire 3 dans l'école parce que ça tombait comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, on voyait pas nos amis, genre jamais, sauf le monde de notre classe. Puis on avait une classe particulièrement silencieuse, là. Fait que, déjà, en classe, on répondait pas quand le prof disait « Bon matin, comment ça va? » Imaginez en ligne quand on n'avait pas nos caméras puis que le prof ouvrait son micro pour dire comment ça va, bon matin, tu sais. Là, il y a juste un écran avec plusieurs icônes qui ont tout le micro fermé puis qui répondent pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils ont été obligés, tu sais, ils nous ont dit mettez vos caméras pour s'assurer qu'on est là, puisque, tu sais, on s'entend que ça aussi, c'est facile de dire on est là, mais on n'est pas là. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment une adaptation pour nous, pour les profs, pour toute l'organisation de l'école aussi qui a vécu les bulles classe puis qui a tout organisé ça aussi, là.
Mais justement, en fait, j'en profiterais parce que, super intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait justement de l'idée du téléphone comme la communication, puis j'ai moi-même dit, non, mais le téléphone peut être un bon moyen de communiquer avec l'autre, etc. Est-ce que ça veut dire que la communication en personne n'est plus viable aucunement? Je pense que ça reste un essentiel, ça reste un nécessaire. Puis c'est pour ça d'ailleurs que, surtout au cégep, et même, je dirais, une partie de l'université, et même dans les milieux de travail, j'encourage toujours plus... le travail sur place, c'est-à-dire dans une institution, peu importe, plutôt que le télétravail ou l'enseignement à distance, ne serait-ce que parce que, plus souvent qu'autrement dans la vie d'un humain, la majorité de tes relations, tu les fais où? Tu les fais ou à l'école ou au travail. Hein? Souvent, tes amis d'école deviendront... Ou à la rigueur, tu peux faire évidemment des activités le mardi soir, là, mettons jouer du badminton, des affaires de même, là, évidemment. Mais de fait, la majorité de nos relations, ça va être là, ça va être en milieu de travail. Je pense que ça reste quand même important, évidemment. Ça veut-tu dire que c'est là, on ne l'utilise plus? Non, ça reste un autre... Ça te permet justement de rester en communication avec des amis qui viennent de Montréal, de Québec. Moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis du secondaire que je peux encore appeler amis, justement, parce que j'ai un cellulaire, parce que j'ai un ordinateur, parce que je peux encore leur communiquer avec eux de manière hebdomadaire, tu sais.
Puis, tu sais, genre, moi, perso, je préconise souvent la... Tu sais, j'essaie de parler le plus possible quand j'ai une discussion un peu plus sérieuse ou profonde ou peu importe, puisque je préconise beaucoup le en personne, parce que, tu sais, on s'en rend pas toujours compte ou on l'oublie souvent, mais le non-verbal, il est vraiment important dans la communication. Puis, tu sais, on l'apprend dans nos cours, là, mais, tu sais, c'est que le non-verbal, tu sais, on l'oublie souvent parce qu'on se dit, ouais, ben, tu sais, c'est pas important, mais quand on a une discussion avec quelqu'un par message, puis que tu peux pas voir la réaction de l'autre ou comment qu'il se sent, il y a tellement de perceptions que tu peux faire sur un message envoyé par Messenger plutôt qu'un message vocal à la rigueur, c'est déjà moins pire parce que t'as l'intonation de la voix. Puis tu sais, quand on est sur message puis qu'on envoie un point d'exclamation, mettons, ben ça peut autant dire je suis fâché, que je suis vraiment content, que je suis, tu sais, il y a plusieurs significations à ça. Puis ça laisse place à beaucoup, beaucoup d'interprétations qui peuvent être mal prises. Puis ça crée des incompréhensions entre les deux personnes. Fait que, tu sais, je préfère à la rigueur un appel vidéo pour entendre déjà le ton de la voix plus qu'un message pour les discussions vraiment qui sont, tu sais, un peu plus importantes, profondes ou, tu sais, peu importe, un bonjour, comment ça va, ben, tu sais, ben, même à ça, tu sais, la réponse, ça peut être ça va, mais ça peut être un ça va, point d'exclamation, pour dire ça va bien, comme ça peut être un ça va, mais sans rien, puis que ça peut être un ouais, ça va, mais ça pourrait être beaucoup mieux, puis je file pas tant, dans le fond. Fait que, tu sais, même ça, c'est une banalité, mais tu sais, ça dit quand même beaucoup de choses sur les émotions ou sur comment la personne se sent, là.
Mais d'ailleurs, c'est drôle, parce que effectivement, mais dans le langage texte, on l'a compris assez rapidement, là, tu sais, dans les textos, pas pour rien qu'on a des émojis. Évidemment, au début, le ça va, bon, il peut avoir plusieurs sens, hein, c'est, mais là, ben, en fait, justement, on a compris assez rapidement que le langage, ça ne passe pas que par le langage, quoi, que le langage corporel existe, évidemment. Et donc, c'est dans ce sens-là, oui, on le comprend assez rapidement, puis c'est pour ça qu'on a les émojis, mais après ça, bon, je serais assez d'avis que les émojis, c'est peut-être insuffisant parfois pour être capable d'exprimer réellement toute la complexité d'une émotion, des fois.
Parce que c'est sûr, des fois, on veut dire des affaires, puis on n'est pas toujours capable de l'exprimer par que ce soit par message ou émoji, on aimerait ça le dire, genre, en vrai et tout. Puis c'est sûr que, bon, le non-verbal, le verbal de la personne, tu te dis, bon, elle ressent ça, elle veut peut-être pas le dire, mais par vidéo, ça serait peut-être plus compliqué d'exprimer ça et... Donc, merci d'être venu. On est content de vous avoir reçu. Puis, bye. À la semaine prochaine, on va recevoir un invité spécial.
Ben, merci à vous.